Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alexis. On est le 7 septembre 2026, c'est la rentrée, voilà, c'est un petit épisode rapide parce que je dois filer un rendez-vous après, mais juste pour vous donner un petit peu de visibilité sur ce dont on va parler dans les mois, les semaines qui viennent. Je pense qu'un truc dont on va pas beaucoup parler, c'est les modèles frontières. Il y a eu des grosses news là-dessus quand même dans ces dernières semaines. Il y a eu Fable 5.1, il y a eu GPT-6 Astra, ça c'est quand même la plus grosse news. Et force est de constater quand même que ça dégêne pas les passions des foules et des discussions. Et je pense que c'est à raison, et c'est pour ça qu'on va pas beaucoup en parler, parce que très franchement, on n'a plus besoin de ces modèles. Moi j'ai l'impression de répéter ça souvent, mais là c'est la première fois où ça me saute aux yeux de manière flagrante. Même dans la communication d'OpenAI ou d'Anthropic, ils insistent sur le fait que ça, c'est des modèles qui sont réservés aux scientifiques, qui sont réservés aux chercheurs, aux ingénieurs. Et voilà, c'est pas, ça va pas nous faire une révolution. C'est des modèles qui sont hors de prix. On est sur du 10 $ le million de tokens en entrée, 50 $ le million de tokens en sortie. C'est des prix qui sont complètement monstrueux. Et d'autant plus qu'on est maintenant dans l'époque de l'IA agentique, comme je le répète souvent, et donc on consomme beaucoup de tokens parce que on n'est plus dans la simple conversation question-réponse où on avait finalement un nombre de tokens qui était relativement limité, mais dans une ère où on a des logiciels, des harnais comme on dit dans l'anglais, des GPT Work, des Cloud Cowork, des Open Code, de ce que vous voulez, qui vont appeler les LLM en rafale et qui vont faire du tool use, donc appeler des outils, etc. Et donc tout ça fait que, bah, en fait, on consomme beaucoup de tokens. C'est pas vraiment une question, je pense, de est-ce que tel modèle consomme plus qu'avant ou pas. Ça, c'est vrai peut-être à une large échelle, mais ce qui, je pense, il faut bien avoir conscience, c'est juste qu'on consomme différemment les tokens. On n'est plus dans une simple conversation avec des assistants. On travaille avec des agents, vraiment, qui ont des outils. Et donc, là, généralement, ce qu'on leur demande nécessite de plusieurs étapes de réflexion, d'utilisation d'outils, de manipulation des résultats, etc. Ce qui, à mon sens, est la vraie valeur aujourd'hui, et qui est c'est la vraie valeur pour certaines tâches, pas pour toutes. Mais voilà, c'est ça pour moi qui est vraiment intéressant. J'en parlais un petit peu quand je parlais du hack d'OpenAI, etc. C'est-à-dire qu'on a des modèles de LLM qui sont de plus en plus conscients, en quelque sorte, c'est pas le bon mot, hein, mais qui sont de plus en plus affûtés pour travailler avec des outils et profiter de ces boucles d'itération que propose le harnais. Et donc, ça permet de faire des tâches vraiment impressionnantes. J'ai commencé à vous partager un peu des cas d'usage dans les épisodes récents et je vais continuer à le faire. Et donc, moi, je vois bien que tous mes usages viennent de cette notion un petit peu agentique, c'est-à-dire qu'on travaille avec un agent qui produit des fichiers sur lesquels on travaille, qui va faire des recherches sur Internet, qui va compiler, qui va écrire du code. Évidemment, ça, c'est l'étape la plus importante. C'est-à-dire que globalement, pour faire des choses un petit peu efficaces et intéressantes, à un moment, les agents doivent écrire du code, à mon sens. Quoi qu'on fasse, hein, on travaille sur une présentation, des slides, etc., sur du travail, n'importe quoi, c'est vraiment... À mon avis, il y a toujours une étape de ça. C'est ça qui rend les tâches efficaces. Ça et l'utilisation des skills, et notamment le fait de faire vos propres skills, en tout cas de faire à votre agent. Parce que quand vous avez des tâches qui sont récurrentes, ce qui est en réalité la plupart des tâches, c'est-à-dire qu'on a un job, et en général, pour faire ce job, on fait régulièrement les mêmes genres de tâches. C'est pas obligé d'être des tâches unitaires, hein. Ça peut être des tâches, on va dire, un petit peu intellectuelles. Mais le fait de faire des skills, c'est-à-dire d'essayer de packager un petit peu les différentes étapes, de découper et tout, bah déjà, c'est un super exercice intellectuel pour vous de bien comprendre les procédures de votre travail. En allant un peu au-delà de ce travail, on le fait depuis longtemps dans le monde du no-code et de l'automatisation, puisque c'est comme ça qu'on peut ensuite automatiser. Mais là, on va un cran plus loin, puisque les IA peuvent aller plus loin que les automatisations un petit peu déterministes traditionnelles. Et donc permettre d'aller plus loin dans aussi la réflexion qu'on peut avoir dans son travail au quotidien. Qu'est-ce qui peut être là? Où est-ce que les agents peuvent aider et tout? Remplacer, je ne sais pas, mais en tout cas, aider. Voilà. Et donc, cette notion d'agent, je pense qu'on sort aussi de cette illusion des agents autonomes qui prennent des initiatives et tout. Par contre, on est dans cette ère où on a à notre disposition des agents, hein, comme GPT Work est un agent, c'est un agent de travail, on va dire, mais vous êtes à la manœuvre, vous êtes à la supervision, vous êtes à l'orchestration, en quelque sorte, de ces agents, vous les faites travailler et vous en tirez les bénéfices. Donc moi, c'est un peu ça ma vision de là où on en est. Et donc, quand je vois Fable 5.1, GPT 6, je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Moi, ce qui m'intéresse à la limite un peu plus aujourd'hui, c'est de regarder, en tout cas de regarder pour le grand public, hein, les outils de type GPT Work, de type Claude Cowork, etc. Et ce que j'observe dans ces choses-là, et là je sors d'une formation de 3 jours avec plusieurs mentors et tout, on a formé un groupe, c'était une formation assez intéressante, et donc on a fait 3 jours de formation sur toutes ces choses-là, un très beau programme de formation très personnalisé pour une entreprise aux Pays-Bas. Et ce que dont j'en ressors, c'est qu'aujourd'hui, GPT Work, donc on a formé des gens qui sont des analystes, des gens, des consultants, ce type un peu de métier, pas des vibe codeurs, pas des gens qui vont faire de l'automatisation, mais on les a formés à bien utiliser des outils type GPT Work, à utiliser des skills. Et ce que j'observe, c'est que, franchement, un outil comme GPT Work, pas du tout un fan d'OpenAI, mais je pourrais dire probablement la chose de Claude Cowork, mais là j'ai passé tellement de temps dans cet écosystème-là pendant une semaine que cet environnement, il n'est pas encore très abouti. Il y a des grosses disparités entre la version web, la version desktop, la version cloud locale et tout, il y a beaucoup de disparités, mais il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que ces gens-là, par exemple, on leur a fait toute une après-midi de vibe coding, mais sans leur parler de codex, sans leur parler de Claude Code, sans leur parler de HTML, rien. On leur a dit, vous allez vous faire un petit outil. On leur a même pas parlé d'HTML. À la fin, quand on a débriefé, on leur a expliqué, mais dit, on va faire un petit outil, une petite interface, et vous vous débrouillez. Et ils ont tous réussi à faire des choses. Et ils sont pas allés dans Codex. À un moment, il y en a certains qui ont découvert ça, mais des gens qui avaient aucune idée du code et tout, ils ont allé dans GPT Work, ils ont dit, fais-moi une interface comme ça. GPT Work leur a fait du code, leur a hébergé du code avec GPT Site, ou alors leur a fait tourner en local, mais ça a marché. Donc il n'y a plus besoin, pour le grand public, hein, je parle, hein, pas pour les développeurs, les ingénieurs logiciels et tout, mais de tout, il y a une espèce de tout est en train de fusionner, c'est-à-dire qu'on sort de cette ère des assistants, mais en fait, ça a la même tête. GPT Work, quand vous ouvrez, c'est la même case qu'avant dans ChatGPT, vous parlez, je dis GPT Work d'ailleurs, mais c'est ChatGPT Work, le vrai nom du... Et donc, vous discutez et il vous fait des choses, mais il vous fait des choses de manière complètement agentique. Il ne vous fait pas des choses, juste il répond à votre question. Il va aller éventuellement travailler sur votre ordinateur, il va aller éventuellement se connecter à vos connecteurs, par exemple, c'était une boîte un peu corpo, donc c'était connecteur SharePoint, Notion, etc. Et voilà, mais il fait des choses extrêmement intéressantes. Vous pouvez packager tout ça dans des skills, dans des plugins, réutiliser vos procédures, utiliser, faire écrire du code qui va dans vos skills et tout, enfin bref. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Les modèles, on s'en fout, franchement. Vous voyez, hein, il y avait des gens, ils n'avaient pas trop l'habitude, ils utilisaient GPT Sol, 5.6 Sol, qui est un logiciel, enfin un modèle extrêmement puissant pour faire des choses extrêmement basiques. D'ailleurs, il y a dans ce genre de contexte, par contre, il y a un travail qui n'est pas du tout efficient. Il y a beaucoup de gâchis de tokens. C'est aussi pour ça qu'on nous paye pour former les gens, pour leur expliquer quand ils pouvaient utiliser GPT Terra, par exemple, ou même Luna. Et ils ont bien fait l'expérience de toutes ces choses-là. Donc vraiment, GPT-6, Astra, franchement, on s'en fout. Et un des trucs que je n'ai pas trop aimé, donc je dis on s'en fout, j'attends, je ne vais pas me prononcer trop vite, il y a eu plein... Les seuls trucs que j'ai vus sur Internet, c'est qu'il était très bon à faire des jeux vidéo en 3D. Ok, mais je veux dire, franchement, ça n'a aucun intérêt de faire ses propres jeux vidéo. On en revient toujours à la même chose. C'est pour moi, enfin, vraiment, je le dis encore une fois, hein, je pense que ça n'a aucun intérêt de générer de la musique, ça n'a aucun intérêt de générer des vidéos, sauf si vous faites de la création artistique ou professionnelle, mais pour vous-même... Je veux dire, il y a déjà un milliard de musiques de qualité, il y a 1 million de jeux vidéo de qualité pour pas avoir en générer un soi-même. Alors, sauf si vous avez un objectif précis et tout, mais tous ces exemples, ils sont intéressants, ils montrent la puissance du modèle. Je ne remets pas en cause la puissance du modèle, mais quel est l'intérêt pour nous ? Donc, voilà. Mais globalement, j'ai trouvé qu'il y avait eu très peu de posts, de choses pour vraiment commenter. Le seul autre truc qu'il faut que j'investigue un peu plus, c'est qu'ils ont utilisé dans leur vidéo de démo, leur communication OpenAI, ils ont mélangé un peu tout ça avec le voice mode et avec le computer use. Voice mode, c'est le mode où vous parlez avec l'IA et puis elle vous fait des choses pour vous. Et en plus, le computer use, donc ils ont apparemment, Astra est très bon à piloter votre ordinateur à votre place. Et ça, c'est un truc vraiment moi, qui me rend fou parce que le computer use, c'est quelque chose à ne garder qu'en ultime recours. Mais ça n'a aucun intérêt de demander à une IA de piloter votre ordinateur. Je veux dire, il n'y a aucun monde où l'IA va manipuler votre souris plus vite que vous, quoi. Pour l'instant. Mais c'est aussi, je m'explique, évidemment, une IA peut travailler avec, de manière informatique avec des logiciels beaucoup plus vite que vous, à la vitesse de la lumière quasiment, quoi. Mais par contre, manipuler des logiciels qui ont été faits par des humains, où il faut déplacer une souris, regarder un écran où sont les boutons, l'IA, enfin, les ordinateurs ne sont pas faits pour ça. Donc, ils y arrivent, effectivement. Ils font des captures d'écran, ils regardent, ils voient le bouton, ils voient les coordonnées, ils déplacent la souris. C'est pas du tout efficace, ça n'a aucun sens de faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est travailler d'une nouvelle manière. Et donc, par exemple, si je vous donne un exemple concret, piloter un logiciel dans un navigateur à la souris, ça n'a pas de sens. Par contre, les agents savent se connecter à des navigateurs à travers le protocole MCP et utiliser des outils informatiques comme des API pour faire ces choses-là. Donc ça, quand on fait du développement logiciel, maintenant, par exemple, on peut faire des choses très intéressantes. Les agents peuvent tester les logiciels produits, mais pour le faire de manière efficace, il faut le faire à travers des outils spécifiquement faits pour les agents. Mais le computer use, c'est un truc qui n'a vraiment pas d'intérêt, enfin qui n'a pas... Vraiment, je ne sais pas comment... faudrait que je prenne le temps d'arriver à mieux formaliser ces explications, mais ce n'est pas du tout efficace. Alors, il y a des contextes où ça peut être extrêmement utile. Il y a des contextes déjà où vous pouvez ne pas avoir le choix, les outils informatiques ne peuvent pas exister, et donc vous devez... très franchement, ça fait 3 ans que je fais de l'IA, je n'ai jamais rencontré ce cas-là, mais je peux imaginer que dans des contextes pro, peut-être, bon, ça peut servir, ça peut rendre un service. Il y a un monde aussi où ça rend un service, c'est pour les personnes en situation de handicap. Là, il y a des usages qui sont extrêmement intéressants. Parce que malheureusement, beaucoup d'outils, de sites, etc. ne sont pas adaptés aux personnes en situation de handicap. Il y a différentes situations malvoyantes ou quoi. Et donc là, l'IA peut compenser ça. Ça peut être bien. On pourrait se dire, bon, dans un monde idéal, ce serait bien que tous les sites soient accessibles et donc qu'ils marchent bien avec les outils d'accessibilité. Mais ça, c'est un usage que je trouve intéressant, mais c'est un usage qui est plus restreint. Et si ça, on le fait, ça me choque pas. Par contre, que des personnes valides utilisent le computer use n'importe comment, juste pour être chez eux, à faire les 100 pas dans leur pièce et parler à leur IA, et que ce soit leur IA qui pilote leur ordinateur, non, je suis désolé. Ça n'a pas vraiment de sens. Alors, on peut parler encore peut-être que ça dépend aussi de chacun à sa manière de travailler, mais en tout cas, ce qu'il faut bien être conscient, c'est que ça n'est pas du tout efficient, que ça consomme énormément de tokens, en fait. Et aujourd'hui, on peut jouer comme ça, mais c'est une manière de travailler qui n'est pas viable, et donc il faut trouver des meilleures manières de travailler. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est un truc qui me travaille, parce que le computer use, c'est une manière paresseuse de faire les choses. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre comment fonctionne un système informatique, et les agents sont très bons pour ça, et puis essayer de trouver le moyen informatique, de faire écrire le code qui va bien, etc. Je vais vous donner un exemple très, très, très simple. C'est mon petit use case, je vais terminer avec ça, parce que j'ai plein de choses à débriefer, mais je vais faire court, mais je veux juste rester sur ce point-là, parce que ce point-là, il me paraît très important. Donc moi, ce week-end, je me suis rendu compte d'un truc. Donc chez moi, j'ai une petite caméra qui filme quand je ne suis pas là. C'est quelque chose qui me sécurise, c'est pas forcément un système de sécurité très élaboré, mais c'est juste pour me dire, voilà, s'il y a un problème chez moi, quel qu'il soit, je peux me connecter avec mon téléphone. Et donc, j'avais un système que j'avais bricolé avec un petit outil d'automatisation qui s'appelle IFTT, qui se connectait à cette petite caméra, c'est une petite caméra TP-Link. Et donc, en fait, quand je partais de chez moi, ça activait la caméra tout seul, et puis quand je rentrais, ça la désactivait. Parce que sinon, j'avais pas envie de penser à l'activer et à la désactiver. Et quand je suis rentré là de congé, je me suis rendu compte que, discrètement, sans me prévenir, IFTTT avait désactivé mon automatisation. Je n'ai pas bien compris pourquoi, mais je n'ai plus trouvé dans les connecteurs de IFTTT le connecteur TP-Link qui correspond à ma caméra. Donc, je suppose que TP-Link, comme ça arrive très souvent dans le monde des objets connectés, a tout simplement choisi de rendre obsolète ce matériel et puis de ne plus le supporter. C'est quelque chose, si vous avez un petit peu bricolé, un petit peu de faire un peu de domotique, vous savez que c'est extrêmement fréquent et c'est complètement insupportable. C'est vraiment de l'obsolescence programmée de manière vraiment... ça me rend fou, voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Et donc, je me suis dit, j'ai une vague idée de comment fonctionnent ces caméras. Elles sont souvent d'ailleurs très mal sécurisées. J'ai vu beaucoup de conférences de sécurité dessus. J'ai une vague idée comment elles fonctionnent. Je dois pouvoir me bricoler quelque chose aujourd'hui. Et donc, j'ai ouvert mon PyAgent sur mon ordi, qui est connecté sur le réseau local où il y a la caméra. Et je lui ai dit tout simplement, je lui ai expliqué le concept. Je lui ai dit vraiment littéralement ce que je viens de vous raconter. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Alors, je lui ai dit, évidemment, fais aussi des recherches, qu'est-ce qui existe sur l'étagère. Alors, il m'a dit qu'il y a Home Assistant, qui est très connu dans le monde de l'IA, qui pourrait me permettre de faire ça. Encore que, apparemment, cette caméra-là n'était pas forcément supportée dans Home Assistant, mais bon. Mais surtout, ce qu'il m'a dit, c'est que, il a commencé à chercher, et il a littéralement commencé à faire des manipulations comme ferait un hacker qui voudrait hacker la caméra. Franchement, j'ai lu tous les logs et tout. J'adore PyAgent parce qu'on lit vachement bien la réflexion et tout. Et je l'ai vu commencer à scanner mon réseau, trouver l'adresse IP de la caméra, commencer à se connecter dessus. Il a fait des recherches sur Internet, il a trouvé le firmware de la caméra. Et donc, il a tout. Et en fait, en un quart d'heure, 20 minutes, il a écrit un script qui permettait, en local, sur le réseau, de se connecter à la caméra et de l'allumer et de l'éteindre. Ça, c'est la manière efficace de faire, parce que maintenant, j'ai plus besoin jamais d'IA pour faire ça, j'ai du code, j'ai un setup, je sais comment faire, il m'a même aidé, on a commencé en plus après à rigoler un peu, à trouver des moyens un peu, parce qu'il m'a dit, pour que ça marche, il faut que j'ai un ordi qui tourne en permanence dans mon réseau local, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, j'ai pas de NAS ni rien. Et donc, il m'a dit, mais tu sais, si t'as un vieux téléphone qui traîne, tu pourrais faire ça. Il se trouve que j'ai plusieurs vieux téléphones qui traînent. Et donc, ça, c'est ma prochaine étape. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais utiliser un de mes vieux téléphones Android. Et ce bout de code qu'il m'a écrit, il va tourner sur ce téléphone que je vais tout le temps laisser allumer. Et puis voilà. Et en plus, il m'a dit, fais attention à la batterie. Il m'a donné des idées pour que la batterie, économiser la batterie, parce que si on laisse un téléphone chargé tout le temps, évidemment, la batterie explose. Donc voilà, plein de trucs comme ça. Donc c'était vachement intéressant. Et tout ça pour dire qu'il y avait une autre manière de faire, qui aurait été d'essayer de bricoler un système qui aille, un ordinateur qui aille cliquer à ma place sur l'interface de la caméra. Et donc d'avoir comme un ordinateur qui, à chaque fois que je lui demande un truc, utilise de l'IA pour allumer le logiciel de la caméra, appuyer sur un bouton, etc. Mais ça, c'est... Je caricature un peu le... Mais donc ça aurait été du computer use, ça aurait été possible aussi maintenant... Faire des agents, un agent type Hermès. Je mets un Hermès sur un PyAgent, un Raspberry Pi dans mon réseau local, et je lui fais ouvrir le navigateur, machin, pourrait le faire. Mais c'est pas du tout efficient. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pars de chez moi, je rallume de chez moi, il y a de l'IA qui consomme des tokens. Non, il faut pas faire ça. Il faut faire. Et c'est l'agent qui a tout fait, hein. Franchement, c'était absolument passionnant de lire tous les logs. Mais bon, c'était passionnant pour moi par rapport à mon passé de bricoleur, et surtout, j'ai fait beaucoup de domotique à un moment. Mais voilà, donc c'est une petite illustration, c'est mon petit use case, j'espère que c'était un peu clair, je l'ai raconté un peu n'importe comment. Mais voilà, globalement, ce que je peux vous raconter un peu de au moins les modèles, les news sur les modèles frontières, et surtout sur cette ère de l'IA agentique que je vais continuer à illustrer, parce que finalement, moi je suis en plein là-dedans, hein, j'utilise plus beaucoup juste une IA pour me connecter, franchement le seul cas d'usage où je discute avec un assistant juste en mode question-réponse, c'est pour la cuisine. Je sais pas si je pense que j'en ai déjà un peu parlé, moi je suis un peu nul en cuisine, mais par contre j'aime beaucoup cuisiner et je cuisine de plus en plus. Et donc je demande des choses, j'avoue, mais sinon je fais que de l'IA agentique dans OpenCode ou dans PyAgent. Alors moi c'est parce que j'ai pas envie d'utiliser ChatGPT Work, etc. Mais je fais exactement la même chose. Je travaille dans des dossiers, enfin voilà, mais c'est cette vision très... Si on utilise de l'IA, il faut faire des choses qui comptent et qui restent. Donc, il faut faire des choses qui sont documentées, du markdown, il faut faire des choses qui produisent du code qui est réutilisable, voire, pourquoi pas, piloter, et je commence à le comprendre de mieux en mieux, que cette chose où j'ai un petit peu résisté, pourquoi pas piloter des outils no-code, low-code, comme si on a des automatisations à faire pour le projet qu'on fait, pilote N8N, etc. Voilà, je pense que c'est toujours bien de savoir faire du N8N et tout, mais voilà. Et ça, c'est là, ce dont je vous parlerai dans le prochain épisode. J'ai utilisé Zite, il y a eu des très très belles nouveautés dans Zite, qui est vraiment, pour moi, avec Software, les outils phares du mouvement no-code hein, maintenant. Et Zite, sur le côté no-code, agentique, vibe coding, très intéressant. Ils ont sorti un serveur MCP. J'ai piloté Zite depuis PyAgent avec un modèle chinois. Bref, je vous raconte tout ça dans le prochain épisode parce que c'était vraiment super intéressant. Et que en plus, le fait que Zite ait proposé ce serveur MCP est vraiment aussi une marque que c'est une très belle boîte parce que ça va un peu à l'encontre de leur business. Voilà, mais je vous expliquerai ça dans le prochain épisode. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.